Vous êtes bien sur Radio Libertaire, la voix sans dénimètre de la Fédération anarchiste. C'est la société dans tous ses états. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à ce micro Jean-Loïc Lequellec. Bonjour Jean-Loïc.
Bonjour.
Tu étais venu dans notre émission en décembre 2022 pour nous présenter ton livre La Caverne originelle, sur donc l'origine des peintures et de l'art rupestre, une étude passionnante que tu avais menée à cette époque-là. Je te présente à nouveau à nos éditeurs et auditrices. Tu es anthropologue, tu es spécialiste de l'art rupestre, hein, que tu as beaucoup étudié dans le Sahara en particulier. Et là, je t'invite parce que tu as dirigé aux éditions du CNRS un dictionnaire critique des contes. Alors, la première question que je voudrais te poser, après avoir dirigé en 2017 avec Bernard Saint-Jean un dictionnaire critique de la mythologie, pourquoi, d'où est venue cette idée de faire un dictionnaire critique des contes et qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, le dictionnaire critique des contes ?
On peut le considérer d'une certaine façon comme un deuxième volume, hein, au premier, qui était donc le dictionnaire critique de mythologie. Alors, on pourra peut-être revenir sur qu'est-ce que c'est qu'un mythe, qu'est-ce que c'est qu'un conte. Mais disons que, voilà, il y a un type de récit qui se transmet essentiellement oralement depuis des temps très très lointains, qui a fait l'objet de ce premier volume. Et pour des raisons de place, parce qu'il fallait que ça tienne en un seul volume, au départ avec Bernard, on avait prévu trois volumes, mais bon, l'éditeur a reculé. Il fallait que ça tienne en un seul volume, donc on n'a vraiment pas pu tout mettre. Il restait des tas de choses dont on n'a pas parlé. Et l'idée de ce nouveau dictionnaire, c'est de compléter et de donner un petit coup de projecteur sur des domaines qui touchent donc aux contes. Alors, au conte à la fois oral, mais au conte aussi dit littéraire. Et de pas faire une encyclopédie, hein, mais de donner des coups de projecteur sur certains aspects de ce monde des contes, avec l'idée de fond de montrer combien ce monde, en fait, infuse pratiquement toute notre culture. C'est pas du tout réduit à ce qu'on entend parfois des histoires pour les enfants, ou des petites histoires, disons, des choses qui ne prêtent pas à conséquences, pas sérieuses. Bon, en fait, oui, ça peut être ça, bien sûr, mais c'est très loin d'être que ça. Et on retrouve le monde des contes dans la littérature, dans le cinéma, dans la peinture, dans la musique. On le retrouve dans tous les domaines de la culture. Et donc, voilà, l'idée, c'est de donner quelques éclairages là-dessus.
Alors, c'est un dictionnaire avec beaucoup, beaucoup d'entrées. Je l'ouvre là, comme ça, au hasard, et je tombe sur énigme, je tombe sur conte populaire, conte littéraire, j'ouvre à nain, je tombe sur science-fiction, je tombe sur récit cadre, encore deux pages, Petit Chaperon Rouge, Charles Perrault, Madame l'Héritier. Donc on voit, il y a énormément de portes d'entrée, hein, dans l'univers des contes. Il faut rappeler aussi qu'il y a beaucoup de contributeurs. Combien de contributeurs ont participé à cet ouvrage ?
Alors finalement je me suis... Je pensais connaître à peu près le monde des contes. Je me suis aperçu qu'en fait, ce que je connaissais, c'était qu'une toute petite partie. Et que c'est un monde tellement vaste que c'est impossible d'en traiter seul. Hein. Et c'est pour ça que, pour le dictionnaire, on a fait appel à un grand nombre de personnes, plus de 90, qui sont des spécialistes de tel ou tel domaine, de tel ou tel aspect, de telle ou telle région culturelle de l'Afrique, par exemple des réalités africaines ou... du Moyen-Âge italien, bon, des choses comme ça, qui ont traité chacun et chacune un aspect du monde des contes. Alors ça fait que effectivement les entrées sont très diverses. Alors pour avoir une petite idée du style du livre, c'est pas du tout un livre dans lequel on va trouver toute une liste de contes connus, genre Blanche-Neige, Le Petit Chaperon Rouge, etc. Et puis un résumé de chaque conte, et puis peut-être une histoire autour du conte, etc. Pas du tout. Il y a quelques entrées qui correspondent à des contes connus, Mais il y a beaucoup d'entrées qui correspondent à des notions, à des concepts, tu en as donné plusieurs, à des auteurs et à des autrices, à des gens qui ont collecté des contes, qui ont écrit des contes, qui ont réfléchi sur ce que c'est que les contes, et puis des sujets transversaux comme par exemple le loup, où tu as cité là par exemple les nains, qui sont des grands thèmes qu'on va trouver dans des contes très très différents. Ce qui fait que c'est une vision, disons, transversale du monde des contes.
Je découvre en lisant et en feuilletant donc ce dictionnaire critique des contes le travail qui a été accompli par différents auteurs depuis les frères Grimm au début du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui hein, par différents auteurs qui se sont attachés à donner une forme de cadre conceptuel aux contes. Je pense en particulier à cet auteur finlandais Antti Aarne et puis à l'américain Steve Thompson, à l'allemand Hans-Georg Hütter qui ont donné des classifications. Est-ce que tu peux nous donner une histoire de cette étude des contes et nous introduire un petit peu aux méthodes de classification, parce qu'il y a une classification des contes?
Oui, alors oui, c'est une histoire qui remonte à la fin du 19e siècle. Et qui commence en Finlande, parce que en Finlande, il y a une très longue tradition d'études des traditions orales, notamment des gens qui se sont consacrés à l'étude du Kalevala, qui a été considéré comme l'épopée nationale. Hein. Et une série de très longs poèmes avec des milliers de vers. Donc il y a eu beaucoup de collectes de cette tradition-là, de cet ensemble de textes oraux, et puis de tradition orale en général. Et cette collecte est devenue rapidement tellement énorme qu'il y a eu un problème très vite pour s'y retrouver. On avait quantité de textes qui ont été notés, qui ont été transcrits, hein, des gens qui racontaient, qui disaient des poèmes, qui disaient des contes, les folkloristes les ont notés. Tout ça, ça fait une archive considérable. Et dans les années 1870, déjà, il y avait des archives de folklore hein, dans la Société de littérature finnoise. Il y avait quelque chose comme 26 000 contes qui avaient été notés. Et alors, évidemment, pour s'y retrouver, c'est très, très, très difficile parce que nous, on a pris l'habitude, disons que les gens qui ne sont pas spécialistes, qui s'intéressent comme ça ou qui connaissent juste un peu les contes, on a pris l'habitude de parler des contes en donnant un titre. Exemple, le petit chaperon rouge ou Cendrillon. On voit tout de suite ce que c'est, hein, évidemment. Mais en disant ça, en fait, on fait allusion à quelques versions seulement. Et quand on commence à faire une collecte beaucoup plus globale, on s'aperçoit qu'il y a quantité de versions qui sont très différentes et qui, parfois, ont été publiées avec des titres différents. Et le même type d'histoire a été publié avec des titres très différents, donc ça rend très difficile la classification. Et il y a quelqu'un qui s'appelait donc Antti Aarne. Avant, il y avait un autre qui s'appelait Julius Krön. C'est toute une histoire. Hein. C'est des gens qui étaient spécialistes des contes déjà à la fin du 19e siècle. Et qui se sont dit, bon, au lieu de désigner les contes par le début, par exemple, ou donner un titre arbitraire, on va simplement leur donner un numéro. Alors évidemment, ce n'est pas très poétique, mais ça a l'avantage de s'y retrouver très facilement. Alors, ils ont divisé les contes en grandes catégories. Alors, il y a une catégorie, c'est les contes d'animaux. Alors, c'est les contes, par exemple, où le renard discute avec le loup et le trompe. Bon, les fables de La Fontaine, on peut dire que ça en fait partie, etc. Les contes d'animaux, les protagonistes sont des animaux. C'est la première des grandes catégories. Une autre catégorie, c'est les contes merveilleux. Les contes merveilleux, c'est ceux dans lesquels le monde surnaturel est considéré comme quasi naturel. C'est-à-dire qu'il y a des ogres, il y a des fées, il y a des lutins. Bon, c'est comme ça, il n'y a rien d'extraordinaire à ce qu'ils interviennent dans l'histoire. Voilà. Une autre catégorie, c'est ce qu'on appelle les facéties, les anecdotes. C'est souvent des petites histoires rigolotes. Et puis des contes à formules, c'est-à-dire des contes avec des répétitions, des allitérations, des jeux de mots, etc. Et puis une dernière catégorie, c'est tout ce qu'on n'a pas pu classer dans les premières. Et à chaque conte, donc dans chaque catégorie, on leur donne un numéro. Et actuellement, on a comme ça 2499, quasi pour ne pas dire 2500, qui types de contes différents. Et donc, ça permet, au lieu de dire, par exemple, bon, le petit chaperon rouge, Les spécialistes, ils l'appellent AT-333 ou maintenant ATU-333. Qu'est-ce que ça veut dire ? A, c'est Arne, donc le monsieur qui a, lui, consacré toute sa vie, le premier, à élaborer une classification des comptes, et il a publié la première en 1910, si ma mémoire est bonne. Et puis T, c'est Thomson, c'est donc l'Américain que tu citais, qui, lui, a prolongé ce travail, a élargi la bibliographie, elle l'a nourri et a intégré dans la classification beaucoup plus de comptes que n'en avait considéré Arne. Et puis, il y a un dernier qui s'appelle Hutter, qui, lui, a complété très récemment ce travail, et c'est pour ça qu'on désigne cette classification par les initiales de ces trois spécialistes, A, P, U, Arne, Thomson, Hutter. Et puis le numéro ensuite, 333. On sait que 333, même si on n'y connaît rien, eh ben c'est forcément dans la catégorie des comptes merveilleux. La deuxième catégorie, c'est les comptes qui vont de 300 à 1199. Et donc voilà, ça permet, on donne un numéro, ça permet, c'est international, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de traduire, hein, c'est juste un numéro. Et ensuite, ça permet de classer, de faire un tas. On a un tiroir, si tu veux, un tiroir avec, on va mettre des fiches, et on va mettre là tous les comptes qui ressemblent plus ou moins au petit chaperon rouge si c'est 333, ou au petit poussé si c'est ATU 700. Voilà. Alors, ça paraît peut-être comme ça un peu formaliste. Oui, très formaliste, très loin de la, disons, de la vie d'un compte, du plaisir qu'on a quand on entend un compte. Mais c'est le meilleur moyen qu'on a trouvé jusqu'à présent pour étudier les comptes de façon internationale et pouvoir considérer toutes les variantes d'un même récit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de ça, évidemment, si on s'intéresse, disons, aux variants, à deux, trois variantes, voilà. Mais quand on en a des milliers, puis de proche en proche, elles sont toutes un peu différentes les unes des autres. Mais il y en a qui sont finalement tellement différentes à force de petites modifications que on n'aurait même pas l'idée de les appeler petits poussés. Alors que si on regarde la structure de l'histoire, en fait, c'est bien la même structure. Et bien, cette approche-là permet de mettre ensemble des tas de récits qui ensuite vont faciliter, disons, la comparaison et faciliter une approche, on peut dire, historique des comptes. Essayer de répondre aux questions qu'on se pose depuis longtemps, d'où ça vient toutes ces histoires, depuis quand ça se raconte, est-ce qu'elles sont universelles, voilà, ce type de questions. C'est simplement un moyen technique de faciliter le travail pour répondre à ce type de questions.
Oui, et puis ça n'enlève absolument rien à la beauté, à la poésie des contes. Ça n'enlève absolument rien au plaisir qu'on éprouve à l'écoute ou à la lecture. À la lecture des contes.
Comme en musique, je pense, juste, excuse-moi, oui, c'est juste comme en musique, en musique classique, les gens qui donnent des numéros aux œuvres de Bach.
Oui, BWV, Köchel, numéro temps.
Numéro, ça, pour les gens qui ne sont pas du tout branchés, là, ça n'évoque strictement rien. Mais ça n'enlève rien au plaisir qu'on va avoir à écouter l'œuvre et ça permet à des spécialistes de travailler un peu différemment. C'est un peu comparable.
Une autre entrée très importante et qui est en lien direct avec ce que tu viens d'évoquer, c'est l'entrée qui s'appelle Motif et qui est due à un des auteurs que tu viens de citer, l'Américain Steve Thomson, et qui donne une... Il l'a recopié là, qui donne une définition hein, du motif, qui est le plus petit élément d'un conte ayant le pouvoir de persister dans la tradition. Pour avoir ce pouvoir, il doit avoir quelque chose d'inhabituel et de frappant. Et ça, c'est vraiment un peu la base de la classification, si j'ai bien compris. C'est un des éléments qu'on va utiliser pour justement classer et ranger les contes par catégorie, comme tu viens de le dire.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça, c'est... Alors, Thomson, dont tu parles, donc c'est l'Américain qui a fait une espèce de dictionnaire des motifs qu'on appelle le Motif Index. C'est un truc énorme, hein. C'est en 5 volumes, et ensuite, il y a un 6e volume qui donne l'index de l'index.
C'est énorme, oui, gigantesque.
C'est gigantesque. Et le but, c'était de faire une classification, de tenter, dis-moi, une classification qui n'est jamais terminée, hein, des motifs de contes. Alors, de motifs de récits, plus exactement. Pas seulement les contes, mais aussi les fables, enfin toutes sortes de récits, en disant, bon, on ne va pas étudier cette fois-ci l'ensemble du récit, l'ensemble de l'histoire. Par exemple, le petit chaperon rouge, pour prendre un exemple que tout le monde connaît, tout le monde voit bien, en gros, ce que c'est que l'histoire du petit chaperon rouge. si on veut la comparer à d'autres histoires, on va chercher des histoires qui ressemblent à celle-là. Bon. Mais il y a une autre façon de procéder qui consiste non pas à prendre l'ensemble de l'histoire, mais des morceaux de l'histoire, qu'on appelle des motifs, ce qu'au départ on avait appelé des épisodes. Et celui qui a eu l'idée de faire ça, c'est encore un Finlandais qui s'appelle Julius Krön. Et lui, il a eu l'idée de prendre des petits bouts d'histoire, simplement. Si je prends le petit chaperon rouge, par exemple, voilà, quand je vais raconter l'histoire, je vais dire, par exemple, il était une fois une forêt, et dans cette forêt, un petit chemin qui allait jusqu'à une petite maison, bon, voilà, une masure, etc. Je commence à raconter une histoire comme ça. On voit bien que ce que je vais raconter, ce n'est pas ma vie, là, mais que ça ressemble beaucoup à un conte, déjà, dès le départ. Mais si je dis « il était une fois dans la forêt un chemin », mais au lieu de dire un chemin, je peux dire voilà une rivière, mais je peux dire une route, je peux dire un pont, je peux dire beaucoup d'autres choses qui évoquent également le passage. Et puis dire à la fin on marche ce chemin, on arrive à une maison, ou on arrive à une chaumière, ou on arrive à un château. À chaque fois qu'il y a une modification possible comme ça, selon les versions, dans une version ça va être une chaumière, dans une autre version ça va être une vieille maison, dans une autre version ça va être, je sais pas, une hutte, un igloo, ça va être voilà, n'importe quelle habitation, ça, c'est des motifs. Et donc en étudiant la variation des motifs, au lieu d'étudier l'ensemble de l'histoire, je prends des petits bouts comme ça d'histoire, et de petits bouts en petits bouts, quand je les compile évidemment ça fait l'ensemble du conte, et bien ces petits bouts, je peux les étudier pour eux-mêmes, voilà, et chercher, par exemple, bah, ou dans quel récit on a, par exemple, un récit du type un héros qui va combattre un dragon et qui va sauver une jeune fille qui avait été promise à la dévoration par le dragon. Bon, c'est l'histoire très connue, il y a un chevalier qui arrive, Saint-Michel, par exemple, bon, histoire très connue. Mais je peux prendre juste un petit bout, c'est-à-dire comment il va vaincre le dragon. Et il y a, par exemple, une variante où il fait brûler, ou il chauffe un fer rouge qu'il lance dans la gueule du dragon qui est en train d'ouvrir la gueule pour l'attaquer, et le fer rouge pénètre à l'intérieur du dragon, et là, il le brûle de l'intérieur. Bon, bah ça, j'ai un motif, là, qui est dragon brûlé de l'intérieur. Dragon brûlé de l'intérieur, où est-ce que je trouve ça? Dans quel récit? Je peux le trouver dans des récits que j'aurais classés dans l'histoire de la victoire contre un dragon, mais je peux le trouver aussi dans d'autres récits, notamment, par exemple, pour suivre cet exemple-là, dans des histoires du type Jonah, qui rentre dans la baleine et qui lui aussi va vaincre la baleine en la brûlant de l'intérieur. Et donc ça permet de faire des comparaisons qui vont être différentes, qui vont amener à d'autres conclusions que les comparaisons qu'on aurait pu faire simplement en étudiant l'ensemble des récits. Et maintenant, beaucoup de gens préfèrent utiliser plutôt les récits pour faire des comparaisons, parce que c'est plus facile à définir, parce que c'est assez facile à cartographier à condition d'y passer le temps, et aussi parce que, on y reviendra peut-être, ça permet de faire des calculs pour essayer de dater l'origine des contes et remonter vers une origine possible.
Alors, toujours sur cette thématique des motifs, Thompson, donc dans l'entrée correspondant à un motif dans le dictionnaire, il fait une classification aussi de ces motifs. Il y a trois classes de motifs, les acteurs des contes, les objets magiques, les contenus, les croyances et les incidents isolés. Dans les acteurs des contes, il y a différents personnages qui interviennent, ou animaux, des sorcières, des fées, des ogres, des géants, la belle-mère, le jeune frère. On peut retrouver comme ça des thèmes récurrents qui reviennent régulièrement et qu'on attend quand on écoute un conte. On s'attend à rencontrer tel ou tel type de personnage ou tel type de situation qu'on a déjà entendu auparavant, mais qui continue de nous émerveiller.
Oui, et du coup, s'intéresser aux motifs comme ça, par exemple aux nains merveilleux, sont lutins, pour employer un terme que tout le monde connaît, mais il y a mille et une désignations, des tout petits êtres qui apparaissent ou qui sont très discrets et qui peuvent faire des tas de trucs. Bon, si on s'intéresse à un acteur comme celui-là et à un motif, c'est-à-dire une action réalisée par un de ces acteurs, eh bien, ça permet de la retrouver dans des contes. Bah, évidemment, dans les contes, il y a effectivement des lutins, des petits nains qui apparaissent, qui font des trucs. Bon, mais pas seulement. C'est-à-dire que ces mêmes petits êtres, on peut les retrouver dans des tas d'autres récits qui ne sont pas considérés habituellement comme des contes. Par exemple, dans des légendes, où on va dire que tel menhir à tel endroit a été transporté par des êtres, alors soit des fées, soit aussi des lutins sont intervenus, etc. Et donc, ça permet d'élargir les comparaisons et d'obtenir d'autres résultats. C'est beaucoup plus large, finalement.
Tu viens de l'évoquer, j'allais te poser la question. Comment on délimite, où est-ce qu'on délimite, ou y a-t-il un intérêt ou pas à délimiter les frontières ou les intersections, les zones de croisement entre contes, légendes, mythes, fables, et il y a d'autres peut-être. Est-ce que ça a un sens de faire cette délimitation? Et si ça n'en a pas, pourquoi?
Alors, ça a un sens dans la mesure, c'est toujours un problème de classification, un peu comme tout à l'heure, hein, on a dit avec les types de contes, avec les motifs, etc. C'est souvent ce que les savants font, hein, quand ils ne savent pas trop quoi faire avec une masse considérable de documentation, on commence par classer, et puis on verra bien ce que ça donne. Voilà, on postule a priori que ça va être utile, parce que c'est mieux d'avoir plusieurs petits tas qu'un énorme tas où on ne sait plus s'y retrouver. Voilà. Donc c'est simplement, pour moi, l'utilité de distinguer et de classer pour retrouver assez rapidement, pour s'y retrouver rapidement dans la documentation. Après, il ne faut pas vraiment, de mon point de vue, y a un risque à réifier les documentations, à les solidifier, à les figer, parce que justement, comme le montre l'étude des motifs, il y a des passerelles, toutes les frontières entre toutes ces catégories sont extrêmement poreuses, extrêmement floues. Et comme le montre d'ailleurs l'étymologie, parce que conte, par exemple, compter, le verbe compter, hein, c'est à l'origine, c'est la même racine que compter au sens compter en arithmétique. Hein. C'est le même mot. À l'origine, en latin, c'est computare. Ça a donné à la fois compter dans l'esprit, raconter une histoire, raconter quelque chose, et en même temps compter, énumérer, faire la liste de quelque chose. Parce que au départ, l'idée, c'était que compter, dans les premiers sens du terme, hein, et compte, dans les premiers sens du terme, dans les premières apparitions du terme en français, disons, vers le XIe siècle, hein, 11e, 12e siècle, c'était simplement relater quelque chose en énumérant des faits. Relater quelque chose en faisant une liste hein, d'événements réels, de choses qui sont arrivées. Et puis, petit à petit, le terme il s'est spécialisé et on a simplement conservé le fait d'énumérer des faits et donc de compter. Ce qui fait que, du coup, le verbe compter, C-O-N-T-E-R, à ce moment-là, raconter, a été réservé dans l'idée, compter des choses fausses, compter des fariboles. Alors que compter C-O-M-P-T-E-R, là, c'est quelque chose de sérieux, du calcul, des faits avérés. Et en fait, moi, quand je pense à cette étymologie, ça me fait penser à la Bible, ça me fait penser à la Genèse, parce que le début de la Genèse, c'est vraiment un conte, dans ce sens étymologique, dans ces deux sens étymologiques, parce qu'on vous raconte une histoire, hein, on vous dit, voilà, le premier jour, ça a été la création de, et puis voilà, le deuxième jour ceci, le troisième jour cela, au septième jour, la divinité se repose. C'est typiquement une énumération où on dresse la liste d'événements qui sont supposés être survenus pour les gens qui y croient. Hein. Et donc, on raconte quelque chose en énumérant. Et bien, ça, c'est typiquement l'origine du verbe « compter ». Et on y retrouve les deux sens du terme. Alors, évidemment, le terme, il s'est spécialisé petit à petit, et à partir du XIIe siècle, c'est devenu plus ou moins compter, c'est devenu plus ou moins raconter des choses pour divertir, pour amuser. Et puis, à partir du XVIIe siècle, ça a pris le sens d'un récit inventé, un conte. C'est un truc qu'on invente, c'est une histoire qui n'a pas de véracité particulière. Et mythe, grosso modo, il y a eu le même type d'évolution. C'est-à-dire qu'au départ, un mythe, mythos en grec, c'est juste un récit, c'est une histoire. Peu importe que ce soit une histoire vraie, une histoire fausse, qu'on y croit pas, c'est une histoire, point à la ligne. Et peu à peu, avec le temps, Eh bien, le sens du terme s'est spécialisé et c'est devenu aujourd'hui, par exemple, un mythe, c'est une histoire à laquelle on ne peut pas trop croire. Quand on dit de quelqu'un, ben, c'est un mytho, ou quand on dit même d'une histoire, oh là là, le mytho, ça veut dire simplement que ben, c'est une histoire vraiment, complètement abracadabrante, à laquelle personne ne peut croire. Enfin, c'est vraiment des fariboles. Et conte a eu la même évolution. En fait, on s'aperçoit très vite, quand on essaye de faire des classifications comme ça, que non seulement elles sont poreuses, il y a plein de récits, on a beaucoup de mal à les classer, il y a des récits qui, en France, sont considérés comme des contes, mais la même histoire, quand elle est racontée en Amérique du Sud, et que c'est Lévi-Strauss qui l'analyse, eh ben, on l'appelle mythe, mais c'est exactement la même histoire. Donc, pour moi, ça n'a pas beaucoup, beaucoup d'intérêt. Et en plus, ça suppose une distinction qui relève de la croyance. C'est-à-dire qu'on va dire qu'il y a des récits auxquels on croit, des récits auxquels on ne croit pas. Et les histoires de croyance, c'est vraiment quelque chose de très compliqué parce que c'est très difficile de se mettre d'accord sur ce qui est croyable, ce qui est incroyable. Je pense qu'il vaut mieux se centrer sur une approche plus formelle, voilà, c'est un type d'histoire qui a une forme particulière, qui a une histoire particulière elle-même, qui a été au départ contée de façon orale et puis à partir du moment où il y a l'écriture, des gens ont commencé à les écrire, mais c'est des transmissions orales qui sont anonymes, on ne connaît pas l'auteur, il n'y a pas de moment de création précis. Le texte lui-même, il s'élabore à mesure qu'il se dit, c'est-à-dire le conteur, c'est à la fois quelqu'un qui transmet quelque chose qu'il a appris, mais c'est à la fois, et la conteuse, c'est à la fois quelqu'un qui est artiste, qui crée en même temps qu'il dit, et le conte s'élabore à mesure qu'il se dit, donc là la croyance n'a pas lieu d'être. Et donc, moi je pense que ces distinctions n'ont pas beaucoup d'intérêt. Elles ont un intérêt, disons, de classification. Alors, c'est utile de classer les choses. Ça dépend ce qu'on veut faire. Voilà. Si on veut classer, c'est utile. C'est pas obligé de classer. Et puis, il y a d'autres approches qui sont beaucoup plus larges, à mon avis, et à mon avis, plus productives. Voilà. Simplement, bon, c'est passé dans le langage commun. On peut pas faire comme si ça n'existait pas. Mais la distinction conte, légende, mythe, je sais bien qu'il y a des définitions. Beaucoup de gens se sont penchés là-dessus et ont donné des définitions. Mais bon, malgré les définitions, c'est des genres qui sont extrêmement poreux.
Merci Jean-Loïc pour cette magnifique introduction et cette longue et passionnante explication. Donc on va faire une petite pause musicale et on revient tout de suite après sur la suite donc de notre très belle histoire. À tout de suite. Toujours Radio Libertaire, la voix sans Dieu ni maître de la Fédération anarchiste. On vient d'écouter un titre interprété par le groupe Tête de Chien. C'était « J'ai vu le loup, l'ornard, le lièvre ». C'est bien dans le tempo de notre émission avec Jean-Loïc Lequelec autour du dictionnaire critique des contes publié très récemment au CNRS dans une première partie. On a placer un petit peu le tableau, les grands traits donc de ce dictionnaire. Jean-Loïc, tu nous as fait une merveilleuse description donc de ce dictionnaire, de ce qu'il comporte et de toute la richesse qu'il y a à travers ces contes, ces mythes et ces légendes. Je me souviens d'ailleurs, ça me revient tout d'un coup à l'esprit, quand j'étais enfant à la bibliothèque de l'école que je fréquentais, il y avait tout un rayon qui comportait des livres que tu as connus aussi, qui étaient à destination du jeune public, qui s'appelaient les contes et légendes. Il y avait les contes et légendes, oui, de la Grèce antique, les contes et légendes. Oui. J'adorais ça, c'était merveilleux. Et j'y croyais vraiment. Bah, j'étais gamin. Pour moi, Ulysse, le cyclope et tout ça, c'était aussi vrai que Vercingétorix et Louis XIV. Voilà. Il y a beaucoup d'entrées dans le dictionnaire sur à la fois les compilateurs, ceux qui ont recueilli les contes, Charles Perrault par exemple, les frères Grimm. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Pourquoi à ce moment-là on se met à collecter? Est-ce qu'il y avait déjà eu d'autres collecteurs auparavant?
Alors ce qu'on peut dire peut-être, c'est plutôt que collecte, c'est le fait de noter des contes par écrit. Et ça, c'est très ancien, hein, puisque déjà l'épopée de Gilgamesh, oui, c'était quelqu'un qui, à un moment donné, s'est dit « Ah, mais cette histoire, elle mérite d'être écrite. »
Gilgamesh, voilà. C'est Babylone. Hein.
C'est ça, voilà. Et donc, c'est bien avant notre ère. Hein. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est arrivé plusieurs fois. À partir du moment où l'écriture est apparue, donc elle est apparue en Mésopotamie, elle est apparue en Chine très anciennement, elle est apparue en Égypte ancienne, et elle est apparue en Mésoamérique indépendamment. Hein. Et dès que l'écriture est apparue, il y a des gens qui ont noté des récits qui, auparavant, se diffusaient uniquement oralement. Alors le fait qu'ils ont été écrits, ça donne une date, évidemment, qui permet, on date le texte, hein, mais ça date pas le récit lui-même. Le récit est forcément antérieur, c'est simplement, à un moment donné, quelqu'un se dit « Ah, je vais écrire cette histoire. » Voilà. Il m'a plu, ou pour telle ou telle raison, parce que je pense qu'elle dit la vérité, par exemple, je la note. Bon. Et donc ça, c'est quelque chose qui est arrivé très, très, très souvent, finalement, à partir du moment où l'écriture est apparue. Mais c'est arrivé très souvent, on a une abondante documentation, mais c'est beaucoup plus récemment, disons à partir du 19e siècle, que des gens se sont mis à noter systématiquement et à rechercher les histoires pour les noter. C'est quand même là une démarche un petit peu différente, hein, où toute une série de gens se sont passionnés pour ce type de récit, se sont mis à sillonner les campagnes pour les recueillir et pour les noter, pour les éditer. Voilà. Alors évidemment, on connaît bien les frères Grimm, on connaît Perrault, ils sont innombrables, les gens qui ont fait ça, les personnes qui se sont livrées à ce travail sont absolument innombrables. Il y en a beaucoup qui ont une entrée dans le dictionnaire. C'est impossible de mettre tout le monde, hein, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc on a privilégié, comme pour tous les autres sujets, on a donné des projecteurs comme ça sur certains aspects, certaines personnes. Et par exemple, on a essayé de donner un petit coup de projecteur sur des femmes qui ont fait ce travail, parce qu'on parle toujours des frères Grimm. Et on parle souvent de Sébillot et de Luzel et beaucoup d'autres personnes qui sont des hommes. Mais il y a aussi des femmes qui ont fait ça. Je pense par exemple à quelqu'un de très important, que grosso modo, à part les spécialistes du conte, personne ne connaît, qui s'appelait Ariane de Felitsch. Ariane de Felitsch, qui est morte en 2004. Hein. Elle a fait énormément d'enquêtes. Alors moi, je l'ai rencontrée parce qu'elle a fait des enquêtes dans les années 42, à côté de chez moi, dans un petit village qui s'appelle Montsirègne, où elle a noté des contes en 42, 43, et elle les a publiés un petit peu plus tard. Non, ils sont pas publiés, elle a fait un diplôme avec ses contes, elle a soutenu un diplôme d'analyse de ses contes, et ensuite elle en a recueilli d'autres en Loire-Atlantique, dans la Creuse, dans le Berry, elle a été en Amérique, elle en a recueilli dans le Michigan, en Louisiane, etc., dans les communautés francophones d'Amérique. Elle a fait un énorme travail, qui est vraiment absolument fascinant. Énormément de choses qu'on connaît sur le conte et toute une série de contes, on ne les connaît que grâce à elle. Et elle a fini par faire une thèse en 1957, une thèse majeure. C'est un énorme travail qui est malheureusement est resté inédit. Moi, je milite pour que ce soit publié. Qui s'appelle cette thèse « Essai sur quelques techniques de l'art verbal traditionnel ». Alors, c'est simplement à partir de ses recueils, de ce qu'elle avait entendu dans les campagnes et ce qu'elle avait noté, elle a aussi élargi son propos en regardant les traditions anciennes, justement ce qui avait été noté anciennement par des gens qui, à toute époque, en Grèce ancienne, par exemple, ont noté des récits, pour trouver des constantes stylistiques, c'est-à-dire des techniques d'expression qui sont propres à ce qu'on appelle la littérature orale. C'est-à-dire, il y a des techniques stylistiques qui sont propres à la littérature écrite. On apprend le style, c'est quelque chose qui s'apprend, il y a des techniques. Et quand on parle et quand on veut transmettre un récit oral, il y a aussi des techniques qui sont différentes. Je vais juste donner un exemple, et sa thèse est consacrée à ça. Je donne juste un exemple pour qu'on voit rapidement de quoi je parle là. C'est que on a tous appris à l'école, enfin je pense, que quand on écrit une rédaction, quand on fait une rédaction, et donc quand on écrit en général, faut éviter les répétitions. Hein, on nous a dit, la répétition c'est pas beau, voilà, faut trouver des synonymes, c'est pour ça qu'il y a des dictionnaires de synonymes, voilà, on enrichit son style en évitant les répétitions. Bon, alors on a intégré ça. Dans l'art verbal traditionnel, dans la littérature orale, c'est juste exactement le contraire. On recherche les répétitions. Pourquoi ? Parce que quand on écrit, si on n'a pas bien compris un passage, c'est très facile d'y retourner. C'est très facile dans le livre ou dans l'article ou dans le texte de remonter deux pages avant et de relire. Tandis que quelqu'un qui parle, eh ben, il a parlé, la parole est partie, c'est fini, on ne peut pas réécouter. Alors, en tout cas, pas avant le magnétophone, et en tout cas, pas quand quelqu'un parle en direct. Si on a eu une petite absence pendant que quelqu'un raconte une histoire, eh ben, trop tard, après, on a loupé le truc, c'est fini. Et c'est la raison pour laquelle, dans les contes, régulièrement, on répète, on reprend. Et un exemple de très stylistique, de procédé stylistique, c'est ce qu'on appelle la triplication intensive. Par écrit, je vais dire par exemple d'un personnage, il était extrêmement grand. Bon, c'est très bien, voilà. Mais oralement, je vais dire, dans un conte par exemple, je vais dire, il était grand, grand, grand. Et donc, je me répète. Et ça, c'est ce qu'on appelle la triplication intensive. Au lieu de donner l'intensification en mettant un adverbe, je vais dire trois fois la même chose. Et puis, je vais le redire un petit moment plus loin. Après avoir passé quelques phrases, quelques épisodes, je vais le redire encore, et puis encore, et puis encore, souvent trois fois. Et ça, ça permet à l'auditeur et à l'auditrice de suivre l'histoire, disons, sans risquer de louper des bouts. Et donc voilà, ça, on doit ce genre d'études à Ariane de Felitsch, qui était une des grandes enquêtrices en littérature orale.
Ce qui est assez extraordinaire lorsqu'on t'écoute parler de ces personnes, donc qui soit classifient, soit recueillent, font des compilations, vont dans les campagnes ou dans les coins un peu reculés, recueillir et noter ces contes. Ça me fait penser à Bartok, hein, qui va aussi dans les campagnes du centre de l'Europe récupérer les musiques et les danses populaires pour les transcrire et en faire donc des morceaux de musique classique et inspiré de toutes ces musiques. Ce qui est intéressant dans ce que tu viens de nous dire, c'est qu'à aucun moment on aborde une tentative d'explication ou d'interprétation de ces contes et de ces mythes. Et ça me donne l'occasion de citer une des phrases que tu cites dans l'introduction de ton dictionnaire, une phrase de Walter Benjamin, qui date de 1936. C'est déjà la moitié de l'art de conter une histoire que de la préserver des explications. Est-ce qu'on peut s'arrêter un petit instant sur cette notion et puis donner le contre-exemple qui est celui de la psychanalyse, entre autres, hein, mais il y en avait peut-être d'autres, de l'étude des contes sans chercher à les interpréter dans un sens ou dans un autre.
Oui. Alors, disons que les contes, évidemment, ça se prête à énormément d'approches différentes, et des approches de type psychanalytique ou autre, qui cherchent à expliquer, à retrouver l'origine, à élucider tel ou tel aspect, le symbolisme, toutes ces choses. Il y a des bibliothèques entières là-dessus, hein. Donc ça, c'est une approche, mais il y a une approche qui est tout simplement, je dirais, gustative, hein. C'est comme pour la musique, hein. C'est l'approche qui consiste simplement à prendre plaisir à entendre quelqu'un dire bellement un conte, hein. Et dire bellement un conte, ça veut dire raconter une histoire qui tient la route déjà, qui est bien construite, qui fonctionne bien, et puis la raconter justement avec un art du récit, parce que Ariane de Felice a étudié avec les techniques de l'art verbal traditionnel qui font que ça va couler, ça va aller bien, et que ça va être poétique, qu'il va y avoir des rimes internes, etc., des allitérations, des tas de trucs qui vont faire que, waouh, on va être ébloui par l'histoire. Et évidemment que si on est dans ce monde-là, qui est donc le côté artistique du conte, c'est-à-dire la personne qui est là et qui vous qui dit le conte, et qui l'invente presque en même temps qu'il le dit ou qu'elle le dit, là, on est dans un monde qui exclut l'interprétation, hein. Si vous vous interrompez dans votre récit pour dire « Ah oui, mais il faut que je vous explique qu'en fait, là, le petit garçon qui joue avec la boule d'or, en fait, la boule d'or, on pense que c'est peut-être le soleil. » Vous vous mettez à expliquer un truc comme ça, vous cassez complètement le truc. Ça marche plus du tout, quoi, évidemment. Donc, c'est deux moments différents qui, pour moi, sont pas du tout exclusifs l'un de l'autre. Le moment quand on savoure l'histoire, hein, de la délectation à l'écoute du conte, mais aussi de la délectation de la personne qui dit le conte, il y a un plaisir dans tout ça, et un plaisir collectif en plus, hein, parce que le public joue un rôle aussi grand que la personne qui dit le conte, c'est vraiment en interaction, donc il se passe quelque chose là qui est presque indescriptible, mais qui est vraiment très très très... touchant, disons, et c'est un autre moment que le moment de l'explication. Ça vaut pour la poésie, ça vaut pour la musique, ça vaut pour la peinture, ça vaut tous les arts, pour tous les arts, voilà. Il y a un moment où on savoure, voilà, un moment où on se délecte, où on contemple, et ça suffit, et c'est très bien, et on peut très bien s'en contenter, et il n'y a aucun, vraiment, alors là, il n'y a aucune humeur là-dessus. Et on peut aussi regarder comment c'est construit, comment ça fonctionne, d'où ça vient, quelles sont les idées derrière, s'il y en a, comment ça a été élaboré, etc. Comment les influences, est-ce qu'il y a des écoles, des transmissions, tout ça, on peut regarder ça aussi. Ça n'empêche pas que, à nouveau, quand on va réentendre l'histoire, on va s'en délecter.
Il y a aussi une approche sur laquelle j'aimerais qu'on s'arrête un instant, qui a été développée par un des auteurs de ce dictionnaire et qui avec qui tu as déjà collaboré et travaillé. Je parle de Julien Duy, qui est l'approche phylogénétique. Alors derrière ce terme peut-être un petit peu trop technique, qu'est-ce qui se cache et qu'est-ce que ça peut apporter à la connaissance de l'histoire des contes et aussi des mythes et des récits légendaires, etc.
Alors ça se base sur une idée ancienne en fait, hein, une idée qui a pas mal de décennies derrière elle. Déjà dans les années 20, Arnold Benjenep avait lancé cette idée et puis qui a été reprise par beaucoup d'autres ensuite. L'idée que les contes, les mythes, les récits traditionnels, disons, on peut les regarder comme des êtres vivants qui naissent, qui meurent, qui se reproduisent, voilà, avec l'idée qu'ils se reproduisent, mais pas à l'identique. Et ça conduit à l'idée d'une approche, disons, quasiment darwinienne de ces récits, en disant qu'ils ne se répètent jamais pareil, c'est exactement comme les êtres vivants qui se reproduisent, mais pas à l'identique, hein. C'est ce que Darwin appelait la descendance modifiée, hein. Un chat et une chatte, ça fait des petits chats, mais ils sont pas exactement pareils que leurs parents. Voilà. Et les humains, c'est pareil. Et tous les êtres vivants, c'est pareil. Eh bien, les mythes et les contes, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que moi, je vais entendre quelqu'un qui raconte une histoire. Cette histoire me plaît. Je me dis, ah, elle est trop bien cette histoire, faut que je la raconte aussi à mes copains. Ou moins, voilà. Et donc, je vais la raconter. Jamais je vais la raconter de la même manière, identiquement ce que j'ai entendu. C'est pas possible. Même si j'ai une très bonne mémoire, je vais louper des trucs, je vais la passer à la moulinette de ma propre personnalité. Ce sera la même histoire, mais elle sera un petit peu différente. Et les gens qui l'entendront, racontée par moi, eux aussi peut-être auront-ils envie de la raconter, ils la raconteront de façon un petit peu différemment, un petit peu différente. Ce qui fait que de proche en proche, comme ça, l'histoire se transmet. C'est toujours la même histoire, mais il y a des versions différentes, des performances différentes. Et l'idée, c'est que, l'idée de la phylogénétique, hein, l'idée, c'est de dire, bon, déjà, Lévi-Strauss nous avait dit, un conte, une seule version, si on prend qu'une seule version, ben, on peut dire des tas de choses, y compris très intelligentes, mais ce n'est juste qu'une version de cette histoire. Pour essayer d'y voir plus clair, peut-être qu'il faut avoir le plus grand nombre de versions possibles. Et Lévi-Strauss disait que le conte ou le mythe, c'est l'ensemble de ces versions connues. Voilà. Pour en parler, vraiment, il faut prendre le plus grand nombre d'occurrences possibles. On les aura jamais toutes, mais déjà, si on prend le plus grand nombre possible, ce sera mieux que de se baser sur une seule variante qu'il n'y a aucune raison de valoriser plus particulièrement qu'une autre. Bon. Et donc, on prend un grand nombre de variantes et on regarde ce qui les distingue. Et ce qui les distingue, ça va être, on a parlé plus haut, hein, des motifs, des petits bouts d'histoire qui vont différer d'une histoire à l'autre. Et on va regarder dans quelle mesure les histoires se ressemblent en comptant les motifs, disons, et en disant, ce motif-là, il est présent dans cette histoire, ah, il est absent dans celle-là, mais il est présent dans l'autre, là-bas. Et en comparant, comme ça, de proche en proche, la présence et l'absence des motifs qu'on note avec les ordinateurs par 0 pour l'absence et 1 par la présence, eh bien, on peut se faire aider par l'informatique et par des logiciels qu'utilisent les phylogénéticiens. Les phylogénéticiens, c'est des gens qui, grosso modo, reconstruisent l'arbre du vivant sur l'idée que plus deux êtres vivants appartenant à des espèces différentes se rapprochent, plus leur ancêtre commun est proche. Et pour les histoires, c'est pareil. Plus deux histoires se ressemblent entre elles, plus l'histoire commune d'où elles proviennent va être proche sur l'arbre évolutif des histoires. Et peu à peu, comme ça, en s'aidant de ces techniques qui sont maintenant bien facilitées par l'informatique, on va reconstruire l'arbre vivant des histoires. On prend un récit et on reconstruit avec l'ensemble de ses variantes. Et en traitant l'ensemble de ces variantes, et donc c'est important, pas du tout une seule d'entre elles, eh bien on peut reconstruire en partie, évidemment jamais complètement, l'histoire de ce récit, et on arrive même à circonscrire, non pas à retrouver le premier récit originel, la première fois que ça a été raconté quelque part dans la préhistoire, ça c'est impossible, mais on réussit à retrouver, pas toujours, mais parfois, pour certains récits, disons, la zone du monde dans laquelle ce récit a pris forme, et la période de la préhistoire, souvent, alors ça peut être de la préhistoire, mais de l'histoire aussi, mais de la préhistoire c'est déjà un peu plus surprenant, la période de la préhistoire à laquelle ce récit a été mis en forme, et à partir de laquelle il s'est diffusé parfois sur tout un continent, parfois sur plusieurs continents, parfois dans le monde entier. Donc c'est grosso modo ça, la démarche phylogénétique.
J'aimerais qu'on illustre ce propos par un ou deux exemples. Il y en a un que je tire du dictionnaire. Alors, je ne sais pas si ça compte pile poil dans le cas de la phylogénétique, mais ça m'y fait penser en tout cas. C'est celui de la légende de l'autostoppeur ou de l'autostoppeuse, qui est une légende contemporaine, hein, que tu vas nous rappeler. Et tu dis de manière assez surprenante qu'elle est en lien avec un passage des Actes des Apôtres. Donc un texte plutôt oui, ancien, parce qu'il remonte au début de l'ère chrétienne. Est-ce que tu peux nous donner un petit éclairage sur cet apparentement, alors, je sais pas si le mot se dit, qui est assez surprenant?
C'est un très bon exemple, en fait, parce que, merci d'y avoir pensé, parce que c'est justement l'autostoppeuse fantôme, ou l'autostoppeur fantôme, c'est un récit contemporain, disons au sens actuel, hein, il y a encore des gens qui le racontent maintenant, qui disent pas « je vais vous raconter un conte » ou « je vais vous dire une légende », qui racontent ça comme une histoire vraie, qui leur est pas arrivé à eux, mais au cousin du garagiste ou à la belle-sœur du boulanger, et qui disent tu vas pas me croire, mais voilà ce qui lui est arrivé, et qui racontent cette histoire. Alors je sais pas si tout le monde la connaît, il y a effectivement aussi là beaucoup de variantes, mais grosso modo, c'est quelqu'un qui est sur la route la nuit, un jour où il y a peu de visibilité, il pleut beaucoup, et il conduit et sur le bord de la route, il voit une fille là qui est là en train de faire du stop avec un grand imperméable, qui est complètement trempée de la tête aux pieds et qui fait du stop. Alors bon, il dit la pauvre, il s'arrête, la fille monte, ça peut être une fille, ça peut être un moine aussi avec un habit de bure, hein, c'est l'équivalent de l'imperméable de la fille. Et bon, il prend cette personne-là en stop et il roule. Et au bout d'un moment, il se dit, bah, en fait, je ne sais même pas où elle va, où il va. Donc, il faut que je demande. Alors, il se retourne et puis il dit, bah, vous allez où comme ça? Et l'autre répond pas. Donc, il laisse un petit peu un moment, il redemande. Et à chaque fois qu'il essaye de parler, l'autre ne dit rien. Donc, au bout d'un moment, il laisse tomber. Il dit, bon, bah, tant pis, hein, je roule, moi, hein, c'est comme ça. Hein. Et alors, c'est vraiment une nuit très sombre. Il pleut à verse, on ne voit pas à 5 mètres. Et la route, c'est une route en plus qui est en zigzag. Et à un moment donné, la personne qui a été prise en autostop, qui est derrière, sur le siège arrière, pousse un énorme cri, hurle carrément, et ou crie attention. Voilà. Et donc le conducteur, par réflexe, pile. Enfin, il ne comprend pas. Enfin, il réfléchit pas. Il pile parce que voilà, c'est un réflexe. Et il s'aperçoit qu'en fait, il était dans un virage en épingle à cheveux, et s'il n'avait pas pilé, il allait tomber dans un ravin. Et donc voilà, il se remet de ses émotions, waouh, et il repart. Et il repart, et il arrive chez lui, et il se dit, mais en fait, je sais toujours pas où l'autre là, où est-ce que je vais descendre là, où la descendre. Il se retourne, et derrière, il n'y a plus personne. L'autostoppeur ou l'autostoppeuse a disparu. Et à ce moment-là, il s'arrête chez lui, il descend de la voiture, et il voit que sur le siège arrière, l'autostoppeuse, si c'est l'autostoppeuse dans certaines versions, a laissé son imperméable pompé derrière, sous le siège, ou si c'est le moine, il a laissé sa robe de bure. Et donc, quand c'est l'autostoppeuse, il ramasse l'imperméable, il fouine dans les poches, il trouve un portefeuille avec une adresse, une carte d'identité, tout ça, et il se dit, bon, bah, j'irai demain lui rendre. Alors, le lendemain, il va à l'adresse, avec l'imperméable. Il frappe à la porte de l'adresse, là. Il y a une vieille dame qui ouvre et puis qui dit bonjour, c'est pourquoi. Et il dit, ben voilà, j'ai pris sans doute votre fille, hein, j'imagine, hier, en stop, et elle a oublié son imperméable avec son portefeuille, là, ben, je vous les ramène, là, voilà. Et la dame, à ce moment-là, s'effondre en larmes, et elle dit, mais c'est pas possible, parce que ma fille, elle est morte il y a 3 ans. Et elle lui raconte que sa fille est morte dans un accident de voiture, à l'endroit même où l'autostoppeuse fantôme avait hurlé, ce qui a sauvé la vie du conducteur. Donc ça, c'est une version. Les gens qui racontent cette histoire ne racontent pas ça du tout comme un truc marrant ou pour distraire. Ils racontent ça comme une histoire vraie, à la fois inquiétante et rassurante, quelque chose qui tend à montrer que dans le monde, il y a des choses qui nous échappent, etc., etc. Donc, comme je disais plus haut, on peut dire que c'est une histoire qui est un objet de croyance. Les gens croient vraiment que cette histoire dit la vérité. Bon. Comme toujours dans ce genre d'histoire, si on n'a qu'une seule version, ben on est face à une histoire, on se dit, bon, j'y crois, j'y crois pas, c'est un peu bizarre, il y a des gens qui y croient, moi j'y crois pas, ou il y a des gens qui croient pas, moi j'y crois, etc. Toutes les cases sont possibles. Pour s'en sortir, en fait, le seul moyen, c'est de voir s'il n'y a pas d'autres versions. Quand on s'aperçoit que cette histoire se raconte des dizaines, voire des centaines de fois, en des centaines d'endroits différents de France, avec tantôt un homme, tantôt une femme qui fait d'autostop, et que chaque fois c'est quelqu'un qui monte dans une voiture, qui à un moment donné pousse un cri ou délivre un message, parce que souvent aussi la personne avant de disparaître délivre un message en disant du type « Oh là là, si vous continuez comme ça, ça va être la fin du monde ». Donc l'autre conducteur se retourne et il n'y a plus personne. Bon. Ce type d'histoire est tellement répandu qu'on se dit, mais en fait, c'est pas possible que toutes ces histoires soient vraies, il y a quelque chose de bizarre, en fait, c'est la même histoire qui se répète tout le temps. Et on s'aperçoit qu'elle existe au Moyen-Âge, et évidemment pas avec une voiture, mais avec des chars à bœufs. Et la plus ancienne version, parce qu'il y a des gens qui ont étudié cette histoire et qui en ont fait une histoire, justement, qui ont essayé de retrouver les plus anciennes versions écrites, connues. La plus ancienne version écrite connue se trouve effectivement dans les Actes des Apôtres, hein, 8-26, où c'est sur la route entre Jérusalem et Gaza, où il y a un char qui passe, qui est conduit par un Éthiopien, dit le texte. Et là, il y a Philippe qui est sur le bord de la route et le char s'arrête. Il lui dit ben, monte donc, hein, au lieu de marcher comme ça, monte donc. Philippe monte dans le char. Et à ce moment-là, le conducteur lui délivre un message obscur. Le message, c'est quelque chose du genre comme un agneau à l'abattoir, il a été mené. Puis il y a tout un texte un peu obscur comme ça. Et la fin, c'est la même, c'est-à-dire que le Philippe, donc, qui était monté dans le char, disparaît. Il se retrouve dans une autre ville et il délivre le message qu'il avait entendu parce que c'était une annonce de l'arrivée du Christ. Mais en fait, c'est exactement l'histoire d'un quelqu'un qui fait du stop, monte dans un véhicule, il y a une question de message bizarre et la personne disparaît. Et ça rejoint un autre type d'histoire qui sont ce qu'on appelle les histoires d'abductés ou de ravis. En deux mots, c'est des histoires où c'est pas une auto, c'est pas un char à bœuf, c'est pas un char à cheval, c'est une soucoupe volante, où on a le même type d'histoire, où une soucoupe volante s'arrête, prend quelqu'un sur le bord de la route, l'emmène quelque part dans un lieu inconnu, et là, le conducteur de la soucoupe délivre un message du type « si l'humanité continue comme elle est partie, ça va être la fin du monde ». Et la personne à qui c'est arrivé disparaît miraculeusement de la soucoupe et se retrouve chez lui ou quelque part à côté de chez lui. Et là, va délivrer au monde le message qu'il a entendu. Au fond, c'est exactement la même histoire. C'est pas la même histoire, bien sûr, mais on reconnaît que c'est la même structure. Et donc, avec ce type d'approche qui consiste à dire on va prendre l'ensemble de toutes les histoires et pas simplement une, parce que si on prend que la Bible, on se retrouve toujours devant la même question. J'y crois pas, il y a des gens qui y croient, des gens qui y croient pas. Bon, c'est pas que c'est pas intéressant, mais ça mène pas très très loin. C'est beaucoup plus intéressant de mon point de vue si on prend l'ensemble des versions, celle de la Bible, mille et une autres depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours, y compris dans les versions hyper modernes, avec soucoupe volante ou avec voiture électrique. Et donc là, on a une approche de quelque chose qu'on peut considérer comme un conte.
Voilà, c'est donc ce à quoi peut nous servir l'approche par la phylogénétique et l'approche par les motifs qui nous permet donc de mieux comprendre l'origine de ces histoires qui courent aujourd'hui encore, parce que le thème de l'abduction par les soucoupes volantes, c'est très répandu, en particulier aux États-Unis, où il y a des dizaines, des centaines, voire des milliers de personnes qui sont persuadées d'avoir été enlevées par les extraterrestres.
Et qui n'ont pas du tout, disons, le sentiment de raconter un conte, qui pour eux racontent simplement la vérité. C'est ce qu'on appelle du vécu mythique, puisque eux, ils disent qu'ils ont vécu ça. Bon, bref, ça ouvre des perspectives infinies pour l'interprétation et la discussion. Mais cet exemple montre bien comment on peut avoir des approches différentes selon qu'on considère l'ensemble du récit, selon qu'on considère une ou plusieurs versions ou le plus grand nombre de versions différentes, et selon qu'on considère un motif. Voilà, un motif, ça peut être par exemple un passager monté dans une voiture disparaît subitement. Ça, c'est un motif. Voilà. Ou disparaît subitement après avoir délivré un message oraculaire. Bon. Ça, c'est un motif. Voilà. Donc ce motif, où est-ce qu'on le retrouve? Eh bien, on le retrouve dans la Bible, on le retrouve dans l'histoire de l'autostoppeuse fantôme, et on le retrouve dans l'histoire des ravis, des abductés, qui racontent qu'ils ont été emportés par une soucoupe volante. أمروا صغروا وانت وانا يا حبيبي أنا يا حياتي أنا كلنا كلنا في الحب سوا سهراني الهوى يسقينا الهنا
سهران الهوى يسقينا الهنا ويقول بالهنا
Nous sommes toujours sur Radio Libertaire, la voix sans limite de la Fédération anarchiste, la société dont vous êtes aujourd'hui avec Jean-Loïc Lequellec pour son dictionnaire critique des contes. Nous venons d'entendre un petit extrait de la chanson Elf Leila ou Leila, les mille et une nuits, interprétée par la grande chanteuse égyptienne Oum Kalthoum. Jean-Loïc, dans la deuxième partie, on a parlé des motifs, on a parlé de la phylogénétique, on a remonté un petit peu l'origine des contes avec cette merveilleuse légende de l'autostoppeur, l'autostoppeuse. Une question que j'aimerais qu'on aborde, si tu veux bien, c'est celle de la littérature, du conte écrit, et en particulier de cette efflorescence, de cette floraison des contes écrits au XVIIIe siècle en France, et je pense en particulier à ce fameux cabinet des fées, plusieurs volumes, je crois, une dizaine de volumes publiés dans les années 1780, avec des autrices, là, pour le coup, Madame d'Aulnoy, Madame l'Héritier, qui était la nièce de Charles Perrault, et qui, dans les cercles aristocratiques de la noblesse de l'époque, qui n'en avait plus pour très longtemps avant la Révolution française, donc se réunissait dans les salons pour se raconter ces histoires et pour les écrire et les publier, et ça avait beaucoup de succès, semble-t-il.
Oui, c'était même quasiment des best-sellers. Hein. On a un peu oublié ça, mais il y a toute une littérature écrite par des femmes, donc Madame d'Aulnoy, Madame le Prince de Beaumont, Suzanne de Villeneuve, enfin, il y en a vraiment une quantité.
Madame de Beaumont, excuse-moi de t'interrompre, c'est La Belle et la Bête, hein, c'est ça hein.
C'est ça, voilà, c'est la belle et la bête. Alors, elles se sont inspirées souvent, elles se sont inspirées de contes de fées au sens large, parfois en reprenant des interprétations elles-mêmes anciennes qui peuvent remonter à l'Antiquité. Mais à partir de ça, elles ont élaboré, elles ont fait vraiment un travail littéraire. C'est-à-dire que on n'est plus du tout dans le monde de l'oralité, on est vraiment dans un travail de littérature, à proprement dit. Et c'est elles, en fait, qui ont donné une prospérité tout à fait particulière aux contes de fées. Et d'ailleurs, c'est Madame d'Aulnoy hein, qui a introduit le terme conte de fées. Avant, on ne parlait pas de conte de fées. Il y avait d'autres expressions, comme demi, etc. Et voilà, c'est elles qui ont rendu cette catégorie-là extrêmement célèbre, avec des histoires donc d'inspiration ancienne, on va dire, mais elles les ont traitées à leur manière, et souvent c'était un moyen aussi de faire passer des idées, qui étaient des idées pas qu'on peut dire féministes avant la lettre, des idées parfois un peu audacieuses, différentes des idées communes de l'époque, et elles ont eu énormément de succès.
Et quand on regarde un petit peu la production, le cabinet des fées, c'est plusieurs volumes hein, qui sont écrits et vendus à la fin du XVIIIe siècle. Ça existe aussi en Allemagne, je crois qu'il y avait exactement la même démarche hein, de cette littérature. Et alors, il y a un terme que j'ai trouvé assez extraordinaire dans le dictionnaire, c'est celui de littorature, c'est-à-dire une contraction entre l'écrit et l'oral. Si tu peux nous en dire quelques mots.
C'est-à-dire qu'on utilise aussi, il y a plein de termes qui ont été utilisés pour désigner ce monde des contes de tradition orale, disons. On a dit orature avec des variantes de sens un peu, mais je ne rentre pas dans le détail. Orature, oraliture, littorature, que je trouve vraiment bien trouvé. Littérature orale, c'est le terme qui a souvent été employé, mais qui remonte déjà au 19e siècle. Hein. Littérature orale, pour dire en fait, c'est pas parce que c'est conféré oralement qu'il n'y a pas quelque chose de l'ordre du style et d'un savoir-faire particulier. Tout comme il suffit pas de simplement savoir écrire techniquement pour devenir écrivain, il suffit pas de savoir parler pour devenir conteuse ou conteur. Il y a ça s'apprend. Il y a des choses de l'ordre du style, du répertoire évidemment, du style, d'une certaine façon de faire, une façon d'être aussi. Un type de présence, un type même de présentification qui sont tout à fait propres au monde du conte. Et ces termes comme littérature ou littorature ont été inventés. Littorature, c'est un néologisme assez récent, pour justement bien marquer la différence et dire que, attention, on n'est pas dans le monde de la littérature telle qu'on l'entend habituellement, même si ça n'est pas complètement déconnecté, c'est un autre monde.
On ne l'a pas encore forcément abordé, même si ça reste en filigrane de tout le propos qu'on a eu jusqu'à maintenant. On a parlé des classifications faites sur les contes par les Finlandais, les Américains, les Allemands et autres auteurs européens ou de l'ère culturelle européenne, mais est-ce qu'il y a aussi ce genre de travail dans d'autres aires culturelles? Je pense, tu en as parlé un petit peu, à la Chine ou au monde indien, au monde arabe, persanophone ou au monde africain. Est-ce qu'il y a aussi là, dans ces différentes cultures, dans ces autres langues, qui sont elles aussi porteuses de contes? Et on sait bien que certaines de ces histoires, de ces contes nous sont parvenues, que ce soit le Panchatantra à travers qui est d'origine indienne, à travers la Perse et le monde arabe, et qui reprend des thèmes proches de ceux d'Ésope en Grèce, et puis La Fontaine, Jean de La Fontaine, notre fabuliste bien connu, qui en a repris certaines histoires. Est-ce qu'il y a aussi là des tentatives de classification? Est-ce qu'on connaît aussi un petit peu cette dynamique telle que celle que tu nous as décrite?
Oui, ce dont on a parlé au début, hein, donc Anti-Arn, Steve Thompson, les gens qui ont commencé à classer les contes ont fait un travail considérable, mais ce travail a été poursuivi par beaucoup d'autres. Il y a une immense bibliothèque consacrée à ce type de travail. Il y a des centaines de volumes, en fait, consacrés à ce type d'approche. Il y a notamment une série qui s'appelle les Folklore Fellow Communications, c'est des FFC, qui est entièrement consacrée à ça. Il y a plus de 200 volumes, hein, où des gens prennent soit une époque, soit une ère culturelle, soit un type de conte, et essayent de faire l'inventaire le plus large possible. Voilà. Et on s'est aperçu notamment que, évidemment, il y a des limites humaines à ce type de travail qui était extrêmement embêtante jusqu'à une époque récente. Ça change maintenant avec l'informatique et avec la numérisation. Mais par exemple, le catalogue des contes avait beaucoup de mal à prendre en charge des récits ils ne sont publiés que dans des langues que ne maîtrisent pas les gens qui ont réalisé ces catalogues. Par exemple, tout ce qui est du côté du Japon, de la Chine, c'est sous-représenté, terriblement sous-représenté dans ce type de catalogue. Et peu à peu, il y a des gens qui alors travaillent. Alors, par exemple, il y a des Japonais qui eux-mêmes ont fait, il y en a plusieurs maintenant, des catalogues des contes japonais. Bon, il y en a au moins deux qui existent et qui sont accessibles. Mais c'est pareil pour la Chine, c'est pareil pour... Enfin, la Chine, c'est tellement gigantesque que pour... il y en a même pour certaines régions de Chine, chacune des grandes régions de Chine, même, il y a des catalogues qui sont publiés. Bon, il y a un travail qui se poursuit et qui est absolument gigantesque et qui maintenant est grandement facilité du fait de l'informatique, d'Internet, des livres qui étaient absolument inaccessibles parce que dans des bibliothèques lointaines, maintenant, ben, on peut les lire chez soi, voilà. Si on ne connaît pas la langue, on peut les traduire automatiquement et grosso modo, on y arrive. Et vous avez par exemple des gens comme Yuri Breskin, qui est un spécialiste russe de la littérature orale, hein, qui a, lui aussi, indépendamment, construit son propre catalogue, qui a dépouillé, qui tient compte d'environ 80 000 récits du monde entier. Avec des centaines et des centaines de motifs différents, qui sont différents des motifs de Steve Thompson. Enfin bon, dès qu'on rentre dans ce monde-là, c'est vraiment un vrai labyrinthe et c'est richissime. Et disons qu'il y a la matière pour quantité de recherches pour de très longs siècles à venir, si l'humanité survit.
Il y a une revue savante hein, qui s'appelle Fabula, je crois, hein, c'est ça qui...
Oui.
Qui regroupe...
Il y a plusieurs revues consacrées aux contes. En France, il y a une revue pour les conteurs et conteuses, essentiellement, qui s'appelle La Grande Oreille, par exemple. Il y a des revues de spécialistes, Fabula, il y a une revue qui s'appelle Féerie, il y a donc les Folklore Fellow Communication dont j'ai parlé. À l'échelle du monde, il y a pas mal de gens qui publient des études, des textes inédits, des traductions... La matière ne cesse de s'amplifier.
Il y a même une société internationale savante, hein, International Society for Folk Narrative Research, donc on voit le sérieux, hein, c'est vraiment un domaine d'études.
Ah oui, c'est sérieux dans beaucoup d'endroits sauf en France, disons, parce qu'en France, on n'a pas, pour des raisons historiques, je pense, on n'a pas vraiment pris en compte ce domaine, on ne l'a pas vraiment pris au sérieux. Et nulle part dans aucune université de France, le folklore n'est enseigné. Il n'y a pas de chaire de folklore. Alors que dans d'autres pays, il y a des chaires de folklore et que ça fait ricaner personne. Hein.
Ici, le folklore, c'est voilà. Un peu dépréciatif. Hein,
ici, quand on dit, voilà, en France, quand on dit folklore, imaginez que voilà, t'es à un repas de mariage et puis tu demandes à ton voisin, alors toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie et qui te dit, je suis prof de folklore, bon.
C'est
ricané, quoi. Oui. Bon, voilà. Alors que non, il y a des profs de folklore. Ça existe en Allemagne, ça existe en Angleterre, ça existe en Amérique, ça existe en Australie. Et c'est des gens très sérieux, qui font des études très sérieuses, qui publient dans des revues très savantes.
Alors le conte, les contes continuent de leur vie aujourd'hui dans notre société moderne de ce début de XXIe siècle, à travers des personnages qu'on peut retrouver comme ça. J'ai noté le nom de l'un de ces petits personnages, le lutin Puck, qu'on retrouve chez Shakespeare, c'est un des personnages du Songe d'une nuit d'été de Shakespeare, mais on le retrouve dans le folklore celtique, irlandais. Kipling l'a repris dans un de ses contes, hein. Je crois qu'il y a un recueil de Kipling qui s'appelle Histoire comme ça, qui est un très très beau recueil de contes vraiment écrit par Kipling, mais il reprend des motifs, des thèmes, des personnages du folklore, justement. On retrouve ce lutin Puck dans le dessin animé moderne, on le retrouve dans des mangas, on le retrouve dans les films, et il y a encore des conteurs qui utilisent aujourd'hui les outils à leur disposition, et j'ai été à la fois surpris, étonné, mais en même temps... plutôt de manière agréable, de retrouver une mention, une entrée consacrée à George Lucas. Lucas, je ne sais pas comment on prononce en américain, donc l'auteur de la saga Star Wars, qui s'inscrit aussi, d'une certaine manière, dans le conte. Et même pour lui, c'était une démarche de conteur. C'est ce qu'il explique, c'est ce qu'il raconte.
Tout à fait consciente. Oui, c'est une démarche tout à fait consciente de sa part. Il y en a d'autres comme ça. Il y a George Miller avec Mad Max. Hein. Oui. Les deux, en fait, c'était des élèves de Joseph Campbell. Joseph Campbell, c'était un mythologue américain qui est devenu très célèbre parce qu'il a produit une série télé en Amérique qui s'appelait ça a été publié, on en a fait un livre, qui a été traduit en français sous le titre Le héros aux mille et un visages, et aussi traduit sous un autre titre que Les héros sont éternels, il y a deux traductions. Et ce Joseph Campbell, donc mythologue, qui était, disons, de tendance jungienne, hein, qui pensait qu'il existe des archétypes qui expliqueraient tout ça.
Tu as fait un excellent livre pour démonter les archétypes de Carl Jung. Je le recommande à nos auditeurs.
Voilà. J'insiste pas sur les archétypes, évidemment, qui pour moi tient du mythe contemporain, cette idée des archétypes. Mais lui, en fait, dans son livre, qui a eu un énorme succès et qui est toujours réédité, la traduction française est toujours rééditée, toujours disponible, qui a un très grand succès auprès d'innombrables gens qui aiment les contes, parce que son idée, c'est de dire que tous les récits, tous les contes, tous les mythes reviennent à un seul. Et ce serait diversifié, grosso modo, quoi. Et il donne la structure de ce récit qu'il appelle, de ce récit originel, on peut dire, qu'il appelle le monomythe. Et l'idée, c'est de dire, si ces récits ont eu tellement de succès, c'est parce que la structure du récit original, elle est terriblement efficace. Et George Lucas, qui était son élève à la fac, s'est dit, mais c'est pas bête ça. En fait, si je reprends cette structure de récit pour raconter une autre histoire que les mythes grecs ou que des récits déjà racontés mille et une fois, mais pour raconter une nouvelle histoire, mais avec la même trame, peut-être que ça va marcher. Et c'est comme ça qu'il a conçu La Guerre des Étoiles. Et c'est comme ça que George Miller a conçu Mad Max. Et effectivement, ça a très bien marché. Voilà. Oui, en tout cas, c'est une des preuves tout à fait visibles tout de suite, quoi, que le monde des contes, en fait, il infuse totalement toute notre culture. Alors, on le retrouve, il faut savoir les reconnaître. Évidemment, quand on ne connaît pas les sources, on ne reconnaît pas, on voit juste des belles histoires, et c'est des histoires qui nous plaisent ou qui ne nous plaisent pas, simplement. Mais si on connaît un peu le répertoire de fond, le répertoire de base des mythes et des contes, on les reconnaît dans leur structure. Évidemment, c'est pas les mêmes noms, c'est pas les mêmes endroits, c'est pas la même époque, mais on reconnaît la structure dans quantité de films, quantité de bandes dessinées, quantité de séries, quantité de romans, quantité de mangas, textes d'opéra, etc. On trouve ça partout. Et ces contes, en fait, ils sont omniprésents dans notre culture. Et ils sont également présents grâce à tout un tas de gens qui, actuellement, en font leur métier de dire des contes.
Oui,
c'est très important de souligner ça.
Le renouveau du conteur et des conteuses, tu y consacres une bonne partie de l'introduction du dictionnaire. Donc, un renouveau de l'oralité qui est né aux alentours des années 70-80. En particulier pour l'ère francophone à Québec, mais on connaît ça aussi en France. Hein.
Voilà, alors c'est ce qu'on a appelé, disons, le renouveau du conte, hein, qui n'était peut-être pas tant un renouveau que ça, parce que ce qui est peut-être le renouveau, c'est la médiatisation. Mais à mon sens, le conte, il n'y a pas de renouveau, il ne s'est jamais arrêté, justement parce qu'il se métamorphose sans cesse et qu'il passe dans d'autres endroits, par exemple la légende contemporaine, les rumeurs contemporaines, les rumeurs urbaines, les films, etc., les séries, tout un tas de canaux où les contes continuent de vivre. Hein. Mais, de fait, il y a actuellement des centaines de personnes en France qui ont pour métier de dire des contes et qui utilisent un répertoire traditionnel en le moulinant à leur manière, bien entendu. Alors, il y a plusieurs courants. Il y a des gens qui sont, disons, plus proches de ce qu'on peut imaginer d'une façon traditionnelle de dire des contes comme naguère au XIXe siècle. Et puis, des gens qui utilisent ce fond-là pour faire des créations contemporaines également, qui parlent d'aujourd'hui, des problèmes d'aujourd'hui, avec une langue d'aujourd'hui, mais en utilisant des techniques et des motifs qui sont des motifs anciens et qui sont des techniques propres à l'art du conte, telles que l'avait analysé Ariane de Felice. Et ça donne des créations contemporaines qui sont tout à fait parlantes, c'est le cas de le dire.
Tu parles aussi d'une Américaine, une institutrice, Mary Shedlock, qui va faire le tour des bibliothèques aux États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale et qui va former des bibliothécaires à l'art du conte et le rôle des bibliothèques justement dans la transmission et la préservation de l'art du conte.
Oui, c'est quelque chose de très important qui effectivement est apparu aux États-Unis et qui a été transposée en France, ou ce qu'on a appelé l'heure du conte dans les bibliothèques, ou des moments particuliers, ou des personnes qui sont du tout conteurs ni conteuses professionnelles, disent des contes au public qui est là, qui est souvent des enfants, des adolescents, mais maintenant, heureusement, pas que des enfants et des adolescents. Et ça a été une manière aussi de maintenir et de propager des tas de contes, de motifs de contes, etc. Ça a joué effectivement un rôle important dans la popularisation, disons, de l'art du conte. Voilà. Avec des aspects divers, parce que c'est pas parce qu'on prend un livre de conte et qu'on lit un conte qu'on est pour autant conteur ou conteuse. Parce que là, on fait de la lecture, on ne compte pas. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut souligner. Il ne suffit pas de connaître des contes pour devenir conteur et conteuse. Et il ne suffit pas de lire des contes pour être conteur et conteuse, puisque dans l'art du conte, il y a un aspect de création du texte à mesure qu'il se dit. Le conte, d'une certaine manière, s'élabore à mesure qu'il se dit. Il y a une création continue dans le conte, même si la structure, l'histoire elle-même, elle est héritée, elle est connue.
Tu cites quelques endroits et quelques événements, des mouvements donc qui sont apparus au début des années 70, comme la compagnie des conteurs, alors en anglais The Company of Storytellers en 1985, ou la Montreal Storytellers Guild, la guilde des conteurs à Montréal créée en 88, le regroupement du conte au Québec en 2003, et en France il y a l'association professionnelle des artistes conteurs, et qui est devenue l'association professionnelle des artistes conteurs et conteuses en 2020. Enfin, il y a toute une plein d'exemples comme ça d'associations très dynamiques autour de cette. Ça correspond aussi à un besoin qu'on a tous et toutes de merveilleux d'entendre ces histoires qui continuent de nous enrichir. Lorsque nos enfants sont petits, moi je me souviens, lorsque mes enfants étaient en âge préscolaire, l'espèce de rite du coucher, il n'y avait pas la télévision, on n'avait pas la télé, on avait choisi ça, donc on leur lisait les contes, qu'ils soient des contes anciens, Perrault ou autres, et puis des contes modernes. Je pense entre autres à Claude Ponty, mais il y en a beaucoup d'autres. Ce besoin que nous avons tous et toutes de cette merveilleuse capacité à imaginer grâce aux contes et à s'ouvrir à des horizons qui nous éloignent de la monotonie de la vie matérielle moderne. C'est ça qui est un des éléments moteurs donc pour la vie et la survie du conte.
Oui, mais alors pour les associations là dont tu parles, les organisations dont tu parles, c'est aussi parce que il y a des professionnels.
Oui.
Et donc c'est des organisations professionnelles, évidemment, parce que dès qu'il s'agit d'un métier, l'art du conte, il y a des gens qui en vivent, c'est leur métier. Ça n'empêche pas qu'il y a des gens qui peuvent compter sans que ce soit leur profession, mais c'est comme quantité d'activité, mais pour les gens qui en vivent, évidemment, ça pose des problèmes d'organisation, de statut, par exemple. Et donc, c'est pour ça aussi que ces organisations ont été créées. C'est pour s'organiser en tant que professionnels d'un même monde. Et donc, ça, c'est quelque chose d'important qui est très utile pour aussi tenter de gagner en reconnaissance officielle aussi, en disant, mais attention, le monde du conte, ça n'est pas le monde du théâtre, ça n'est pas le monde, c'est de l'ordre, si on veut, du spectacle ou de la performance. Enfin, on a du mal à vraiment le définir, mais en tout cas, c'est un art en soi particulier qui mérite la considération, et notamment la considération officiel et qui mérite d'avoir des lieux pour s'exprimer, etc. Et qui mérite d'avoir des moyens, voilà. Donc ces organisations-là ont aussi un but, disons, militant dans ce sens, et puis aussi un but de réflexion aussi sur la pratique, qu'est-ce que c'est que compter, qu'est-ce qui différencie, qu'est-ce qui particularise l'art du compte, etc. Voilà. Qu'est-ce qui est particulier? On parlait tout à l'heure de littorature, donc on voit bien que désigner quelque chose qui est assez difficile à désigner, un peu particulier, ben on fabrique finalement un néologisme, voilà, qui permet de mieux voir qu'on a affaire à quelque chose de particulier, tout en le raccrochant à du connu qui est la littérature. Et c'est pareil pour le côté artistique de la personne qui va dire du conte en public. Il y a aussi d'autres néologismes. Je pense à un là qui me vient à l'esprit, qui a une entrée d'ailleurs dans le dictionnaire, je crois, qui est corporature. Hein. Corporature, c'est la façon d'être du conteur quand il compte. Voilà, la façon d'incarner l'histoire. Qui est particulière, qui est très différente de ce qui se pratique au théâtre. Voilà. Et donc, voilà, ces organisations-là ont pour but de réfléchir sur ces questions et aussi de réfléchir sur l'aspect contemporain. Parce que conte, souvent, ça nous conduit dans l'idée commune, dans les prénotions communes, c'est pour les petits-enfants. Et l'image qui vient, c'est la grand-mère près de la cheminée qui raconte aux petits-enfants réunis autour d'elle, quoi. Alors, oui, on peut dire que oui, c'est pas faux, évidemment, il n'y a pas d'interdit à ça. Mais ça, c'est vraiment une image d'Épinal qui est très, très réductionniste. Et en fait, le conte peut être parfaitement contemporain, parfaitement actuel, n'avoir aucune connotation passéiste, et au contraire, prendre en charge des problèmes hyper contemporains. Et d'ailleurs, il y a tout un tas de conteurs et de conteuses qui... ont une pratique et qui touche à des questions actuelles, touche par exemple à la position de la femme dans la société, par exemple, au patriarcat et toutes ces choses.
Merci à toi, Jean-Loïc. On aurait pu encore continuer à discuter et à nous entretenir autour de ce dictionnaire critique des contes que tu as dirigé aux éditions du CNRS. Pour illustrer ton propos, nous allons laisser la place pour conclure cette émission à un grand conteur qui nous a récemment quittés. C'est Henri Gougaud qui va nous raconter l'histoire de l'homme qui voulait rendre les gens heureux. Je trouve que ça va bien avec ton propos parce que ce que tu viens de nous dire, ça rendra heureux et heureuses tous nos auditeurs et auditrices. Encore une fois, mille merci. On se retrouve le 20 juillet prochain. Ce sera le 90e anniversaire de la Révolution espagnole et nous serons en compagnie de Freddy Gomez qui viendra nous en parler.
Eh bien, puisqu'il n'est de bonne compagnie qui ne doivent se quitter, je vais vous raconter, pour finir, l'histoire d'un homme qui vécut autrefois dans le ghetto de Prague et qui était occupé par une idée fixe. Cet homme aimait les gens et il avait envie de les rendre heureux. Et longtemps, il se posa la question de savoir comment il pourrait rendre les gens heureux. Et comme il se posait cette question, un jour lui vint une histoire, une belle histoire, si belle que lui vint l'envie de la raconter. Il se dit, ah, mais si j'avais d'autres histoires comme ça, ah, je suis sûr qu'avec elles, je rendrais les gens heureux. Et les jours suivants lui vinrent d'autres histoires, aussi belles. Jusqu'au jour où il se dit, je vais me mettre sur la place, là, du ghetto, et je vais raconter ces histoires aux gens, et je vais les rendre heureux. Elles sont si belles qu'ils seront heureux de les entendre. Et il fit ainsi. Il s'en fut sur la place du ghetto, il grimpa sur un banc et il se mit à raconter ses histoires. Et des gens s'assemblèrent autour de lui pour l'écouter. Quelques-uns, des hommes, des femmes, des enfants, quelques chiens aussi. Ils l'écoutèrent, puis ils s'en retournèrent à leurs affaires. On ne peut pas dire que ce fut un succès, non. Mais cet homme se dit qu'il fallait insister. Et le lendemain, il revint à nouveau sur la place. Et sur le même banc, il grimpa. Et il continua de raconter ses histoires pour rendre les gens heureux et Moins de gens que la veille s'arrêtèrent pour l'écouter. Quelques enfants, quelques chiens qui s'enfuirent bientôt à leurs affaires. Un troisième jour y revint, et un quatrième, et un cinquième. Et le cinquième jour, plus personne ne s'arrêta pour l'écouter. Les gens avaient pris l'habitude de le voir là, ils disaient « c'est l'homme qui parle tout seul ». Il continua pourtant de raconter. Non pas 5 jours, non pas 10 jours, mais 5 ans, 10 ans, tous les jours. Il venait là, sur la place du ghetto de Prague, et il racontait des histoires pour les nuages, pour le vent, car plus personne ne s'arrêtait pour l'écouter. Et il fit ainsi jusqu'au jour où un enfant vint à lui, le tira par la manche et lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et l'homme lui dit « Tu vois, je raconte des histoires. » « Mais pourquoi tu racontes des histoires? Tu vois bien que personne ne t'écoute. » « C'est vrai, personne ne m'écoute. Mais alors pourquoi tu... » Mais parce que j'avais l'ambition de rendre les gens heureux, je voulais changer le monde. Mais tu vois bien, dit l'enfant, tu vois bien que le monde n'a pas changé. Alors pourquoi tu continues? Et l'homme lui dit, c'est vrai, le monde n'a pas changé. Autrefois, oui, je racontais des histoires pour changer le monde. Mais aujourd'hui, si je continue, et si je continuerai jusqu'à ma mort, c'est pour que le monde, lui, ne me change pas.